France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur les massacres de Sétif et de Guelma au lendemain du 8 mai 45. Alors que l'Europe célèbre la fin de la Seconde Guerre mondiale, le département de Constantine, à l'est de l'Algérie, vit un mois de mai sanglant. Meurtri par l'injustice de la colonisation et probablement galvanisé par un contexte international propice à l'émancipation des peuples, les nationalistes algériens vont pour la première fois tenter de se libérer du joug colonial français. Au terme de 48 heures d'un déchaînement de haine à l'encontre des colons, les indigènes musulmans, on les appelait comme ça alors, vont subir une répression d'une intensité et d'une violence inédites. Longtemps occultés en France, les massacres des musulmans français du Constantinois vont profondément marquer le peuple algérien et, d'une certaine manière, ils vont constituer les prémices de la guerre d'indépendance algérienne. Notre invité aujourd'hui, Jean-Pierre Peyroulou, professeur agrégé, docteur en histoire, spécialiste de la question algérienne. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Gaspard Valu, coordination Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Jeudi 12 décembre 2012, Alger. Le président de la République, François Hollande, est en visite pour un rare déplacement officiel sur les terres de l'ancienne colonie française. Présent devant le Parlement national algérien, il vient prononcer un discours qui doit marquer l'histoire. Car pour la toute première fois depuis la fin de la guerre d'indépendance, un chef de l'État français reconnaît la responsabilité de la France dans les horreurs de la guerre en Algérie. Mais plus important encore, pour le peuple algérien, le président reconnaît, et ça aussi c'est inédit, la réalité de massacres commis par l'armée et les civils français dans la région de Constantine au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées. À Sétif, le 8 mai 1945, le jour même où le monde triomphait de la barbarie, la France manquait à ses valeurs universelles. Nous avons le respect de la mémoire. Nous avons ce devoir de vérité sur la violence, sur les injustices, sur les massacres, sur la torture.
Pour le peuple algérien qui a inscrit la date du 8 mai 1945 dans sa mémoire collective, cette reconnaissance, même si elle n'est pas assortie de repentance en bonne et due forme, revêt un caractère hautement symbolique et fort. Mais pour en comprendre l'importance, il faut remonter le temps et se plonger dans l'histoire sinueuse de la colonisation française en Algérie. Dimanche 4 mai 1930, le croiseur Duquesne, parti quelques jours plus tôt de Toulon, vient tout juste d'accoster dans le port d'Alger. À son bord, le président de la République, Gaston Doumergue. Prévu de longue date, ce voyage officiel de 10 jours est le point d'orgue de plus de 6 mois de festivités célébrant le centenaire de la colonisation d'Algérie. Pour l'occasion, les rues d'Alger sont richement décorées. De nombreuses affiches à la gloire de l'Algérie française sont placardées sur les murs, des dorures sont installées sur le mobilier urbain et des milliers de drapeaux tricolores flottent sur la plupart des bâtiments des centres-villes. La foule se presse en nombre pour assister au défilé militaire et parade traditionnel de cavaliers berbères. Après un déjeuner avec les autorités coloniales et plusieurs dignitaires locaux, le président de la République parade à travers la ville à bord d'une voiture décapotable. Il se rend ensuite à l'hippodrome d'Alger où se déroule la suite de la cérémonie en compagnie de chefs autochtones. Devant les journalistes venus couvrir ce voyage présidentiel, Gaston Doumergue ne manque pas de faire l'éloge de l'Algérie française et se montre plus que conquis devant l'accueil qui lui est réservé.
Je ne suis à Alger que depuis quelques heures, mais j'ai déjà vécu des émotions différentes et profondes. Une émotion douce, quand je songe à l'accueil enthousiaste qui m'a ému jusqu'aux larmes de la population. Je sentais que les applaudissements de cette foule vibrante dépassaient une personnalité et allaient à la France, dont je vous apporte le salut. Durant ce long parcours que je viens de faire dans les rues d'Alger, je n'ai pas trouvé de différence entre les applaudissements des habitants musulmans et français d'origine. Je ne fais d'ailleurs entre eux aucune différence. Je les aime d'un même amour.
Durant 10 jours, le président Doumergue célèbre l'œuvre du colonisateur en Algérie. Oui, il célèbre. Il vante le travail acharné des quelques 800 000 Français et Européens venus tenter leur chance dans cette France située sur l'autre rive de la Méditerranée. Il y détaille les progrès apportés par la puissance coloniale, la construction de routes, de voies, de chemins de fer. Bref, tout semble si beau en Algérie française. Pourtant, lorsqu'en 1930, la France célèbre le centenaire de sa présence sur ce territoire 4 fois plus grand que l'Hexagone, la situation est loin d'être idyllique. Certes, les colons n'ont pas à se plaindre, mais pour les 6 millions de musulmans français d'Algérie, la situation est tout autre. Car ceux que les colons appellent les indigènes sont les laissés pour compte de la colonisation. Là où les populations juives d'Algérie et les Européens, Italiens, Espagnols ou Maltais ont bénéficié de décrets leur octroyant la nationalité française. Et dès l'année 1870, les musulmans, eux, restent des sujets français. Citoyens de seconde zone, ils sont exclus de la vie politique locale. Leurs vies sont alors régies par le code de l'indigénat établi en 1881, qui limite drastiquement leurs droits et leurs libertés. Presque toujours cantonnés à des emplois sous-qualifiés, les Algériens musulmans représentent une main-d'œuvre bon marché et corvéable à merci pour les colons. Dans les régions rurales, de nombreuses familles sont chassées de leurs propriétés au profit de grandes entreprises européennes et d'exploitants français. Des milliers d'hectares sur les terres fertiles du Constantinois, à l'est du pays, sont aux mains de seulement quelques-uns. Et c'est bien sûr cette autre réalité de la colonisation qui marque la population. Comme le raconte l'islamologue Karina Barbloul dans le documentaire « C'était la guerre d'Algérie » de Georges-Marc Benhamou et Benjamin Stora, diffusé en 2022 sur France 2.
Ma famille avait des terres dans la vallée de la Soumame, où il y a effectivement des terres fertiles. Et alors on me racontait comment les colons français prenaient ces terres-là. Ma famille se retrouvait finalement obligée d'aller vivre dans les villages qui se trouvaient dans les hauteurs. Et comment aussi finalement ce peuple a dû s'adapter à ce mode de vie.
La violence de la colonisation et des injustices liées à la présence française font naître les premières revendications nationalistes algériennes. Dès les années 30, deux courants idéologiques émergent au sein de la communauté des musulmans français d'Algérie. Le premier, radical et ouvertement indépendantiste, est incarné par Messali Hadj. Installé en métropole et proche du Parti communiste français, le jeune homme devient dès la fin des années 20 le leader de l'étoile nord-africaine, un mouvement indépendantiste, surtout actif au sein des communautés maghrébines sur le territoire métropolitain. Et ses revendications sont claires, indépendance totale de l'Algérie, retrait des troupes d'occupation et constitution d'une armée nationale. Face aux troupes de Messali Hadj, un autre courant émerge rapidement, les assimilationnistes. À leur tête, le docteur Mohamed Benjelloul et un certain Ferhat Abbas, un jeune pharmacien originaire de la région de Sétif. Eux ne sont pas pour l'indépendance, mais pour une réelle assimilation de la population musulmane, égale à celle accordée à la fin du 19e siècle aux populations juives et européennes. S'ils revendiquent l'existence d'une nation algérienne, ils souhaitent avant tout voir émerger une Algérie liée à la France et dans le cadre d'une grande fédération.
Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère. Quelques heures plus tard, Monsieur Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres.
Lorsque le Front populaire de Léon Blum arrive au pouvoir en 1936, ce sont bien les assimilationnistes de Ferhat Abbas qui ont le vent en poupe. Le premier gouvernement socialiste de la Troisième République a fait de la lutte contre la pauvreté, notamment dans les colonies, une priorité. Preuve de son volontarisme envers les départements algériens, Léon Blum nomme Maurice Violette à la tête d'un ministère chargé de la question algérienne. Il se trouve que cet ancien gouverneur général, surnommé Maurice l'Arabe par le colon français, va tenter de prendre à bras-le-corps la question de l'assimilation des musulmans. Après une rencontre avec le docteur Benjelloul et Ferhat Abbas, Maurice Violette annonce un projet de loi permettant l'accession au droit politique de certaines catégories de musulmans français d'Algérie. Dans une tribune signée dans le journal Paris Soir, datée du 7 mars 1937, il détaille sa pensée.
Les colons ont exprimé des idées bien inquiétantes. Nous avons, disent-ils, la souveraineté en Algérie, nous ne voulons pas la partager. Nous voulons la conserver pour nous seuls. Des concessions ont dû être consenties au Sénégal parce que les Européens sont peu nombreux dans cette colonie. Mais par contre, en Algérie, où nous sommes 800 000, nous sommes en nombre suffisant pour n'accepter personne à côté de nous. Il y a donc une catégorie ethnique qui ne veut pas avoir à discuter avec d'autres le pouvoir que le fait de la colonisation lui a remis. Donc, il est bien entendu que, quel que soit le nombre des indigènes, 7 millions, 10 millions ou 15, ils resteront éternellement, et comme par le décret de je ne sais quelle divinité raciale, les sujets des 800 000 Européens. Je le dis clairement, je considère un tel langage comme absolument fou.
Si les intentions exprimées par Maurice Violette ont tout pour satisfaire le mouvement dirigé par Ferhat Abbas, le texte de loi n'est pas à la hauteur. En vérité, sous la pression des autorités coloniales, le gouvernement propose une loi au rabais. Si la réforme aboutit, seuls, en effet, quelques 24 000 musulmans, sur les 6 millions que compte l'Algérie, pourraient bénéficier de la nationalité française et des droits qui vont avec. Un projet abandonné quelques mois plus tard. Si les assimilationnistes accusent le coup, les indépendantistes, eux, en ressortent renforcés. Le gouvernement de Léon Blum s'inquiète d'ailleurs de la montée en puissance des indépendantistes algériens. Résultat, l'étoile nord-africaine est dissoute en mars 1937. Mais son leader charismatique, Messali Hadj, ne se laisse pas abattre. Quelques jours plus tard, il annonce la création du PPA, le Parti du Peuple Algérien. La réaction du gouvernement ne se fait pas attendre non plus. Le PPA est interdit quelques mois plus tard et l'organisation entre dans la clandestinité. Mais à la fin de la décennie 1930, la question algérienne passe au second plan, car l'Europe sombre dans la guerre.
La ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en places prises, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis, parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment.
Suite à la déroute française face à l'armée allemande, les nationalistes algériens sont renforcés dans leurs convictions. La fin de la période coloniale est proche. Parce qu'enfin, comment un pays si facilement vaincu peut-il espérer conserver son empire ? Si certains nationalistes espéraient tirer leur épingle du jeu avec l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir, c'est l'inverse qui se produit. Les autorités coloniales et les 800 000 Français d'Algérie trouvent dans le régime de Vichy un appui de poids. Les droits des Juifs d'Algérie sont supprimés et le statut de sujet français des musulmans est conforté. Arrêté en 1940, Messali Hadj est condamné aux travaux forcés un an plus tard. Un fossé inexorable continue de se creuser entre les différentes communautés. Et c'est vers les alliés que les indépendantistes vont se tourner. Dès 1941, les États-Unis et l'Angleterre affichent leurs ambitions pour le monde de l'après-guerre. Dans la charte de l'Atlantique signée par Roosevelt et Churchill, les deux pays entendent poser les fondements d'une nouvelle politique internationale. Ils se déclarent contre les expansions de territoires et surtout, ils affirment le droit des peuples à choisir la forme de gouvernement sous laquelle ils entendent vivre. une déclaration qui trouve un écho puissant au sein des mouvements indépendantistes algériens.
Today the North African coast is no longer in hostile hands. As Uncle Sam's boys go ashore, they carry old glory with them. These lads feel they're really at grips with the axis and they're going at it.
Le débarquement allié en Afrique du Nord en novembre 1942 marque un tournant pour Ferhat Abbas. Le leader nationaliste parvient à réunir autour de lui l'ensemble des opposants au régime colonial, dont le PPA de Mesrine Hadj. Et ensemble, ils décident de la rédaction d'un manifeste exposant une nouvelle fois leurs revendications. Mais de nouveau, le pharmacien de Sétif est prudent. Il n'est pas question d'une véritable indépendance, mais d'une autonomie au sein d'une fédération française. Mais rien n'y fait. Arrivé à Alger en mai 43, le général de Gaulle rejette le manifeste de Ferhat Abbas. Le leader nationaliste est à son tour emprisonné pour quelques mois dans le Sahara en septembre 43. Conscient des tensions dans les colonies, le général de Gaulle décide d'aborder la question au début de l'année 44 lors d'une conférence à Brazzaville.
Au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il moins de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution?
Mais nous sommes sûrs, aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Voilà ce qui est le devoir de la France ici.
L'annonce du général de Gaulle est suivie quelques mois plus tard de l'application d'une ordonnance qui octroie la nationalité à un nombre réduit de Français musulmans d'Algérie. Cette fois, ce sont environ 60 000 d'entre eux qui peuvent prétendre accéder à la nationalité française. Et là encore, les nationalistes rejettent fermement cette mesure jugée bien trop minimaliste. Dans la foulée, Ferhat Abbas crée un nouveau mouvement, l'AML, les Amis du Manifeste et de la Liberté. Ce mouvement, aux revendications autonomistes, est largement infiltré par les partisans radicaux de Mesali Hadj, toujours emprisonnés. Et alors que la fin de la guerre se profile avec le débarquement des Alliés en Normandie, ils savent qu'ils vont devoir passer à l'acte.
Thank you.
Aujourd'hui, les massacres de Sétif.
Affaire sensible.
Pour la première fois, le cri des sirènes devient un chant.
Sur France Inter.
Et les cloches de tous les clochers s'ébranlent pour un nouveau Noël. La naissance d'une nouvelle paix pour les hommes de bonne volonté. Il n'y aura jamais assez de drapeaux, ni assez de joie, ni assez de cloches, ni assez de ciel. Nous avons retrouvé aujourd'hui les droits de notre vie. Le droit de rire, le droit de parler, le droit de penser, le droit de prier, le droit d'être des hommes libres.
Au début du mois de mai 1945, l'Europe tout entière s'apprête à célébrer la fin de la guerre et la victoire des Alliés. Mais en Algérie, les autorités coloniales sont aux aguets. Avant de partir pour la reconquête de l'Hexagone, le général de Gaulle prévient les responsables à Alger. Il faut empêcher que l'Afrique du Nord ne glisse entre nos doigts pendant que nous libérons la France. Il sait très bien que la situation est tendue en Algérie. La famine frappe les populations rurales et le climat est qualifié d'insurrectionnel. Dans les grandes villes des départements algériens, on note une augmentation du nombre d'affiches nationalistes à la gloire de Messali Hadj, toujours emprisonné, et à la gloire de l'Algérie libre. Des responsables des services secrets américains alertent alors les autorités françaises sur la situation dans le Constantinois. Dans le bastion de Fer at Abbas, tous les observateurs constatent le fossé qui s'est creusé durant la guerre entre colons et musulmans d'Algérie. Les tensions sont de plus en plus palpables. Le 1er mai, lors des manifestations à l'occasion de la fête du travail, la police fait face à d'importants débordements. À Alger et à Oran, des militants marchent avec des pancartes au slogan nationaliste. Et pour la première fois, un drapeau de l'Algérie est brandi dans la foule. Les heurts font deux morts. Le jour même, le pharmacien de Sétif est arrêté. C'est dans ce climat que se préparent les manifestations du 8 mai qui doivent permettre de célébrer la fin de la guerre. Les autorités coloniales prennent les devants et préviennent les responsables musulmans. Ils sont autorisés à manifester avec les Français, mais interdiction formelle de profiter de l'occasion pour faire passer leur message nationaliste. Il est environ 8h du matin à Sétif, ce 8 mai 45, quand débute la manifestation. C'est jour de marché et les rues de la petite ville sont bondées de monde. Le cortège compte entre 8 et 10 000 personnes. En tête se trouvent les jeunes scouts musulmans. Derrière flottent les drapeaux américains, anglais, soviétiques et français et tout semble bien se dérouler. Vers 8h45, le cortège pénètre dans le quartier colonial de Sétif. Et lorsque les premiers manifestants arrivent au niveau du Café de France sur l'avenue Clémenceau, la situation dégénère. Dans le documentaire « Les massacres de Sétif », un certain 8 mai 1945, un participant à la manifestation raconte la scène.
Quand on a vu le jet de drapeau, on a mis le drapeau algérien au milieu. On ne le voit pas bien. Mais c'est juste en arrivant là devant le Café de France qu'ils sont aperçus qu'il y avait le drapeau algérien au milieu des drapeaux. C'est là, et c'est pour ça qu'ils ont fait arrêter les défilés et de nous dire « enlevez le drapeau ». C'était à cause de ça que ça a éclaté.
Les autorités tentent alors de s'emparer du drapeau algérien, mais Bouzid Sahal, un jeune scout, s'en saisit et le brandit fièrement. Il est abattu par un policier. Le coup de feu déclenche un mouvement de foule. De nombreux Français présents à bord du cortège se précipitent aux côtés des policiers et s'ensuit une immense confusion. Aussitôt, les militants nationalistes du PPA et de l'AML partent récupérer des armes de fortune entreposées non loin. Si la plupart d'entre eux sont armés de bâtons, de barres de fer et d'armes blanches, certains reviennent équipés de fusils de chasse. Durant plusieurs heures, les manifestants s'en prennent à tous les Français qui se trouvent sur leur chemin. Les bâtiments coloniaux sont saccagés, incendiés. Vers midi, les forces de l'ordre parviennent à repousser les manifestants hors de la ville. Des milliers d'Algériens prennent la route, emportant avec eux certains de leurs blessés. Dans le centre-ville, les secours dénombrent une vingtaine de morts français. Les cadavres des Algériens, eux, ne sont pas comptés. Très vite, du côté français comme du côté musulman, la nouvelle des violences de Sétif se répand dans le Constantinois et à Guelma, une petite ville de 20 000 habitants située à une centaine de kilomètres à l'est, où la journée va prendre une tournure tragique. Le sous-préfet, André Achéry, sait qu'une manifestation est prévue dans sa ville pour 17 heures et il ne compte pas tolérer le moindre débordement. Cette figure locale de l'administration coloniale est un fonctionnaire zélé. Ancien des forces de police et du renseignement, il sait qu'aux alentours, des dizaines de fermes isolées sont déjà en feu et que plusieurs Européens sont portés disparus. Lorsque les manifestants se présentent aux abords du centre-ville, le sous-préfet, fusil à l'épaule, les somme de rebrousser chemin. Face à leur refus et après un unique tir de sommation, il ouvre le feu en direction du cortège. Ces hommes suivent le mouvement et les balles pleuvent. Plusieurs Algériens s'effondrent au sol et comme à Sétif, la cohue s'empare de la foule. Dans les campagnes du département, les villageois voient déferler des milliers de musulmans chassés des villes et appelant à prendre les armes. Dans le documentaire « L'autre 8 mai 45, aux origines de la guerre d'Algérie » réalisé par Yasmina Hadi, deux hommes racontent.
Le car est arrivé de Sétif, il était criblé de balles. Les voyageurs sont descendus, il y avait Mohamed Bouaoui. Je lui ai demandé « Mohamed, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce car est criblé de balles ?» Il m'a répondu « Sétif s'est rebellé, et vous ici, qu'est-ce que vous attendez ?»
Quand je suis arrivé dans mon village, j'ai vu le chauffeur de taxi de la douanie. Il criait « Au nom de Dieu, soulevez-vous, la révolte a éclaté. » Et il a pris la route du village des Amouchas et de Périgotteville en continuant à crier. Soulevez-vous, la révolte a éclaté.
Durant 48 heures, des milliers d'Algériens se mêlent aux militants nationalistes. Comme pour se venger d'un siècle de colonisation, tous se ruent sur les habitations des colons français. Dans les hameaux et les villages, les mairies, les bureaux de poste et les maisons communales, tout est incendié. Des dizaines de colons, pour la plupart agriculteurs ou petits fonctionnaires, sont sauvagement tués. De nombreuses femmes sont violées. Et beaucoup se retranchent dans des maisons fortifiées et farouchement protégées, dans l'attente de renforts. Informé dès le 9 mai, le gouverneur général d'Algérie ordonne de mettre un terme à l'insurrection. Avec le préfet du département de Constantine, il charge le général Henri Martin, qui dirige le 10e corps d'armée à Alger, et le général Raymond Duval, chargé du département, d'engager toutes les actions nécessaires. Le 10 mai, on envoie carrément l'aviation. Les pilotes reçoivent l'ordre de bombarder tous les rassemblements illégaux et foyers insurrectionnels. En mer, le croiseur Duguay-Trouin, qui navigue devant les côtes du département, tire une dizaine de projectiles sur la campagne au nord de Sétif. Puis c'est le contre-torpilleur Le Triomphant qui fait pleuvoir plus de 800 obus sur la région. Et des dizaines de villages disparaissent sous les bombes de l'artillerie française. Le 11 mai, averti de la situation dans le Constantinois, le général de Gaulle ordonne le déploiement de l'armée. Les tirailleurs sénégalais et tabors marocains qui attendent d'être démobilisés sont envoyés sur place avec la Légion étrangère. À Guelma, le sous-préfet Achéry a déjà pris les choses en main. Redoutant la réaction de la garnison tirailleurs algériens stationnés dans sa ville, il les enferme et confisque leurs armes. Dans la nuit du 8 au 9 mai, il réunit tous les responsables français colons volontaires. Il ordonne la création d'une milice civique chargée de la répression. Des dizaines de civils sont ainsi armés de fusils et partent en chasse. Après avoir récupéré une liste de supposés militants nationalistes, les miliciens se ruent vers leur cible désignée. Zélés quand ils n'arrêtent pas arbitrairement tout homme qu'ils soupçonnent d'appartenir au mouvement indépendantiste, ils le tuent sommairement. Dans les jours qui suivent, les campagnes aux abords de Guelma sont méticuleusement ratissées par les miliciens. Des centaines d'hommes sont tués. Pour la réalisatrice Yasmina Hadi, un homme raconte une scène dont il a été témoin.
À cette époque-là, je gardais les troupeaux ici. Ils sont arrivés avec un camion. Le camion était rempli de prisonniers. Ils ont mis la 24 au milieu de la route. La 24, c'est une mitrailleuse. Il y avait quoi? 10, 12 ou 14 Français? Je ne peux pas vous dire exactement. Les prisonniers sont descendus du camion, sont allés au bord du fossé et ont été placés dos à la mitrailleuse. Je ne peux pas vous dire qui a donné l'ordre de tirer. C'était peut-être celui qui les commandait. Et là, ils les ont mitraillés. Ils sont montés dans la voiture et le camion et sont repartis.
Le 13 mai, et alors même que l'armée est venue prendre le relais de la milice, le général Duval se rend à Guelma en compagnie du préfet Constantine. Aux miliciens décidés à poursuivre la traque, ce dernier affirme « Quelles que soient les bêtises que vous commettez, je vous couvrirai, messieurs. Vengez-vous. » Chauffés à blanc par cette invective et par les exactions commises par les musulmans, ils poursuivent leur chasse. Si des centaines d'Algériens sont arrêtés et jugés par un tribunal illégal mis en place par le sous-préfet Achiari, beaucoup d'entre eux sont assassinés sans aucune forme de procès. Les corps sont entassés dans des charniers aux abords de la ville. Mais par peur que ces derniers soient découverts, les miliciens et l'armée réquisitionnent le four à chaud d'une entreprise locale pour y brûler les preuves. Le 20 mai, les autorités coloniales à Alger déclarent la fin des opérations militaires et le 22, une reddition collective est organisée sur une plage du Constantinois. Plusieurs milliers de militants ou simples Algériens y sont réunis. Face aux responsables militaires et coloniaux, tous rendent les armes. Et sous la contrainte, ils prononcent la phrase « Nous sommes des chiens et Ferhat Abbas est un chien ». Par la suite, des centaines de militants sont emprisonnés dans l'attente de leur procès quand d'autres, considérés comme leaders, sont assassinés. Dans les semaines qui suivent, et même si quelques heures subsistent, l'insurrection indigène est définitivement matée. Au terme de près d'un mois de violence, le bilan humain côté français est connu sans demeure. Du côté musulman, en revanche, c'est le flou le plus total. Dans les régions de Sétif, Guelma, mais aussi à Karata, où de nombreux hommes sont éliminés, parfois jetés du haut des ponts qui franchissent les hautes gorges, le nombre de victimes est inconnu. Une seule certitude, il y a plusieurs dizaines de milliers de morts. En métropole, alors que les Français fêtent la victoire et retrouvent le goût de la liberté, presque personne n'entend parler des massacres du Constantinois. La censure fait son travail. Le gouvernement se contente d'un communiqué de presse lapidaire qui évoque, je cite, « des troubles causés par des indigènes d'inspiration hitlérienne ». Autrement dit, circuler. Seules quelques personnalités s'élèvent contre la répression féroce qui vient d'avoir lieu dans le Constantinois. Dans sa revue « Combat », Albert Camus tente d'avertir ses lecteurs.
Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les Français d'Algérie un ressentiment profond et indigné. La répression qui a suivi a développé dans les masses arabes un sentiment de crainte et d'hostilité. À tout prix, il faut apaiser ces peuples déchirés et tourmentés par de trop longues souffrances. Pour nous, du moins, tâchons de ne rien ajouter aux rancœurs algériennes. C'est la force infinie de la justice et elle seule qui doit nous aider à reconquérir l'Algérie et ses habitants.
Par la suite, le gouvernement provisoire dirigé par le général de Gaulle charge tout de même une commission d'enquêter sur ce que l'on qualifie alors d'événement du Constantinois. Mais à peine arrivé sur place, son responsable voit son travail entravé par les autorités coloniales. Il est presque immédiatement rappelé à Paris par le gouvernement. L'unité de la classe politique, même la gauche, traditionnellement anticoloniale, est totale. Dans une note confidentielle adressée à son supérieur et retrouvée des années plus tard, le général Duval, à la tête des opérations anti-insurrectionnelles, déclare « Je vous ai donné 10 ans de paix en Algérie, mais tout doit changer. Depuis le 8 mai, un fossé s'est creusé entre les deux communautés et un fait est certain, il n'est pas possible que le maintien de la souveraineté française soit exclusivement basé sur la force. » 8 ans et demi après ce massacre qualifié de trouble par les autorités françaises, débute la véritable guerre d'indépendance algérienne, qualifiée d'événement en Algérie. on adoucit les mots, mais on renforce la répression et la violence.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les massacres de Sétif et de Guelma en Algérie. Notre invité, Jean-Pierre Perroulou. Bonjour.
Bonjour.
Professeur agrégé, docteur en histoire, spécialiste de la question algérienne. Pour faire suite et directement à la fin du récit, je voudrais que nous abordions la question toujours délicate du nombre de victimes de ces massacres. On connaît le nombre précis de victimes françaises, mais du côté musulman, algérien, mais qui sont français aussi, mais musulmans, c'est difficile à établir ce bilan. Quel chiffre peut-on avancer ?
Comme vous l'avez dit, on ne sait pas. Le PPA a parlé de 45 000 morts à l'époque, dans les mois qui ont suivi 45, les massacres. Donc, l'Algérie indépendante parle de 80 000 morts. Les autorités britanniques et américaines qui étaient présentes sur les lieux en 1945, puisque, comme vous l'avez dit, les Américains et les Anglais avaient débarqué en 1942 en Algérie. Les Britanniques ont parlé de 6 000 morts du côté algérien. Les Américains ont parlé de 17 000 morts. Ils étaient bien informés. Et ça rejoindrait un chiffre qu'avait donné Ferhat Abbas dans les années qui suivaient, où il avait parlé d'un chiffre compris entre 15 et 20 000 morts. Ouais. Donc, si l'on ne peut pas donner un chiffre avec certitude, on peut sans doute raisonnablement évoquer cette fourchette-là, quelque chose autour de 17 000 morts algériens, ou entre 15 et 20 000 morts, pour avoir un ordre de grandeur.
Et Messali Hadj, ainsi que Ferhat Abbas, quel était leur sort respectif à la suite des massacres du Constantinois ?
Alors, ils sortent tous deux de prison en 1946. Messali va passer quelques mois en France, après être en France métropolitaine, après être sorti de prison. Il arrive en octobre 1946 à Alger. Il s'établit à Bouzaria parce qu'il est interdit dans les principales villes algériennes. Il a une mesure restrictive de liberté, on peut dire. Donc il s'établit dans la périphérie d'Alger, une commune qui s'appelle Bouzaria, qui est vraiment maintenant le dans l'aire métropolitaine algérienne, algéroise. Pardon. Il va continuer bien sûr l'indépendance, la politique indépendantiste, hein, avec le PPA. Et le PPA va osciller entre deux politiques, on va dire, une politique de participation au jeu électoral français, hein, dans le but d'obtenir l'indépendance, et puis une politique un peu plus, on va dire, radicale de préparation de l'insurrection avec la création d'une organisation qui s'appelle l'OS. Ferhat Abbas, lui, va créer une formation qui s'appelle l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, où il va reprendre les idées qu'il avait développées dans le manifeste que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une, on va dire un réformisme décolonial, c'est-à-dire en somme progresser dans la voie. Alors,
de l'autonomie.
De l'autonomie.
Si ce n'est pas l'indépendance, quoi.
Ou d'une indépendance, mais dans un cadre français.
Dans un cadre français. Revenons maintenant sur le silence médiatique et politique en métropole. À l'exception de très rares figures, tout de même, personne n'en a réellement parlé. Comment expliquer cela, et notamment de la part de la gauche anticoloniale?
Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement est lui-même très mal informé de ce qui se passe en Algérie. Il n'y a pas de liaison téléphonique entre Paris et Alger en 1945.
Ah oui.
Les échanges se font uniquement par télégramme. Donc, le gouvernement central, le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, et notamment le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, dont dépend directement le gouverneur général de l'Algérie, ne communique que par télégramme. Oui, il n'y a pas de liaison téléphonique. Ça complique beaucoup de choses.
Bien sûr.
Il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a une censure qui est établie dans la presse sur les événements en Algérie. Non pas parce que ce sont des événements où les indépendantistes interviennent, mais tout simplement parce que les opérations militaires ne sont pas totalement achevées en mai 1945. Et donc il y a une censure qui porte sur les opérations militaires en cours et les opérations le 8 mai 1945 relèvent de cela. Si bien qu'il y a par exemple dans un journal qui accorde le plus d'importance à ces événements-là, l'Humanité, le journal du Paris communiste français, quand on consulte aujourd'hui l'Humanité, eh bien on voit bien les espaces qui étaient coupés, qui avaient été retirés de la publication. Alors pour la gauche, bien sûr, la gauche elle est présente dans le gouvernement du général de Gaulle. Elle est les partis de gauche, PCF, bien sûr, PCF, SFIO sont les principales formations de ce gouvernement qui penche franchement à gauche par ses hommes et par ses idées et son programme. Elle est prise entre deux feux et entre deux réalités. C'est que d'abord l'Empire et tout particulièrement l'Algérie a été l'argument essentiel, on peut dire, pour le rétablissement de la puissance française. N'oublions pas qu'à partir de 1943, Alger devient la capitale de la France libre, où s'établit le général de Gaulle. Et puis d'un autre côté, il y a bien sûr les idées, l'histoire, l'engagement anticolonial, qui est celui de la gauche. Alors, un engagement franchement indépendantiste du côté du PCF, on va dire plus réformiste et assimilationniste.
Côté
SFIO, mais quand même un engagement anticolonial. Et je crois que la gauche, elle est prise par ces deux réalités-là.
Oui, et la gauche au pouvoir, avec Guy Mollet notamment, va être face à une vraie contradiction idéologique. Elle va aller à l'encontre de son idéologie.
Bien sûr, plus tard, au moment de la guerre d'Algérie.
Au cœur de la guerre d'Algérie. On se retrouve dans 3 minutes, Jean-Pierre Peyrouloux, après avoir écouté Louise Attaque, La Frousse.
Toujours beaucoup plus loin. Tu veux parler, tu veux crier, on ne comprendra rien. Tu veux chercher, tu ne trouveras point. Tu voudrais t'envoler, éviter les chemins. Donner aux eaux, donner aux eaux, il n'y aura pas de moi. J'ai la frousse du moindre petit retard. Dire bonjour, au revoir. La frousse de t'embrasser ce soir. De ne plus sauter dans les flaques. L'espoir de perdre le fil détaché. De vivre à côté, que tout soit gâché. La frousse de faire le moindre mètre. Sans aimer, empêcher, disparaître. La frousse du moindre petit mot. Celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse. crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. J'ai la force de voir ce qu'il faut voir. Combien le jour quand t'arrive le soir. La force de me réveiller dans le noir. De ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La force du moins nos petits gestes. D'être empêché, remplacé, disparaître. La force de la moindre rencontre. D'être celui qui est pour, qui est contre. La force de la moindre goutte d'eau. Qui arrive de la mer, du ciel, oui d'en haut. Je crois qu'on ressent tous les secousses. En fait, je crois qu'on a toujours la frousse.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Et Jean-Pierre Perroulou, je rappelle que vous êtes professeur agrégé, docteur en histoire, spécialiste de la question algérienne, et nous traitons aujourd'hui des massacres de Sétif et de Guelma. Juste un petit retour en arrière, j'aimerais qu'on évoque l'Algérie sous l'occupation, parce que c'était un cas à part, apparemment. Les autorités coloniales, comme les colons, ont-ils vraiment bénéficié d'une certaine bienveillance de la part du régime de Vichy?
Alors, l'Allemagne n'occupe pas l'Algérie, bien sûr. Il n'y a pas un seul soldat allemand en Algérie. Dans le Vichy, il est à l'état pur. Vichy a reçu... C'est Vichy sans l'occupant. Donc, c'est Vichy à l'état pur. Hein. Ouais. C'est la même chose, d'ailleurs, dans les autres colonies, hein, bien ouais. sûr. Et elle peut mettre en œuvre sa politique... sans avoir l'argument de la pression de l'occupant allemand.
Oui. Et on voit sa véritable nature.
Et on voit dans sa véritable nature. Donc, si on veut examiner Vichy, on va dire, dans ses
fondements,
dans sa dimension intime, ouais. il faut regarder l'Algérie ou l'Empire. Parce qu'il n'y a pas l'argument allemand. Oui, il y a un grand enthousiasme pour le maréchal Pétain, sans doute encore plus fort qu'en France, tout simplement parce que la vision de Pétain, qu'a Pétain de la société, les thèmes de la révolution nationale, confortent la position des colons. Mmh. Et la vision que développe Vichy et la révolution nationale, cette vision organique de la société, conforte la position d'autorité, de pouvoir des grands colons.
Et occidentale chrétienne aussi.
Oui, bien sûr.
Mais c'est important, on a une culture musulmane en face.
Bien sûr. Et cela légitime le racisme colonial très fortement, si bien que les premières mesures qui sont prises dès 1940, ce sont de remettre en cause le décret Crémieux qui avait octroyé la citoyenneté française de plein droit au début de la Troisième République à tous les juifs indigènes d'Algérie, ce qui n'avait pas été fait, bien sûr, pour les musulmans d'Algérie. Et la politique antisémite est mise en place avec autant de force que dans la zone libre ou dans la zone occupée, bien sûr, par l'Allemagne. Et ce racisme, il s'applique naturellement aux musulmans. Au point que, je ne sais pas si l'on peut parler, pour évoquer la question de la colonisation, de régime d'apartheid, de séparation...
Parfois, ça y ressemble.
Mais ça peut y ressembler par certains côtés. Mais il y a cette réalité-là durant la période 1940-1942. Par exemple, durant la période coloniale, aucune plage n'était interdite aux musulmans. Les musulmans n'avaient pas des plages, les Français d'autres plages. Oui. Et les populations pouvaient se mêler. Il n'y avait aucune loi qui empêchait cela pour profiter du bord de l'eau. Eh bien, il y a des plages qui sont interdites aux musulmans pendant Vichy. Alors, c'est un aspect symbolique, bien sûr.
Ah, c'est quand même une politique de séparation.
Mais c'est une politique bien de séparation et elle est mise en œuvre. C'est
la traduction
Vichy
de séparation.
Vichy légitime le racisme colonial.
Voilà. D'accord. Et dans certaines langues, la traduction de séparation, c'est apartheid. Hein.
Bien sûr.
Bon. La question de la préméditation de ce soulèvement populaire a souvent été débattue. Est-ce que c'est une poussée de fièvre? Ou est-ce que ceux qui sont à l'origine de ces heurts, de ce soulèvement, avaient préparé le coup? Ou est-ce que c'est les deux à la fois? Parce que
non, je ne crois pas qu'on puisse soulever, affirmer qu'il y a une préparation réellement du soulèvement. Bien sûr, il y a chez le PPA, dès 1940, cette idée d'une insurrection populaire contre la colonisation, contre la présence française. Mais le PPA n'en a pas les moyens. D'abord, il y a de nombreux militants qui sont arrêtés. La répression est très forte depuis 1940, bien avant donc le 8 mai 1945, mais Sali est en prison, il est bien loin de l'Algérie à ce moment-là. Non, ce qu'il y a, c'est une manifestation, comme vous l'avez dit.
Cette et c'est le sous-préfet qui allume la mèche.
Oui, qui allume la mèche. Et cette manifestation, elle est interdite. On sort le drapeau. Mmh. Les autorités françaises ne le souhaitent pas. La manifestation tourne en émeute. Il y a des morts à Sétif. Et l'insurrection se produit dans les campagnes autour de Sétif par sentiment de vengeance. Mmh. C'est ça qui anime sentiment de vengeance. C'est d'autant plus fort que les ventres sont creux, comme vous l'avez rappelé. Donc, c'est une insurrection spontanée, largement, dans la région de Sétif qui se produit.
Guelma, 1945, là c'est le titre de votre livre, et souvent le sous-titre est important. Le sous-titre, c'est « Une subversion française dans l'Algérie coloniale ». Expliquez-moi cette subversion française.
Exactement, et c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Parce qu'en effet, on place les deux événements de Sétif et de Guelma sur le même plan, alors qu'il faut fortement les distinguer. Autant il n'y a pas autant il y a une insurrection dans les campagnes autour de Sétif, autant il n'y a pas d'insurrection dans les campagnes de Guelma. Ce qu'il y a, en revanche, c'est un phénomène de subversion des Français, qui est assez comparable d'ailleurs avec ce qui va se passer à la fin de la guerre d'Algérie avec l'OAS.
Et là, stratégie l'OAS, d'attention, c'est ça ? C'est un peu ça ? Non, pardon,
on peut estimer que c'est une stratégie de l'attention, parce qu'en effet, les Français ne veulent pas de la politique de réforme qu'envisage de mettre en œuvre, et qu'a commencé à mettre en œuvre d'ailleurs le gouvernement provisoire de la République française. Par exemple, l'ordonnance qui a été la réponse, mais qui a été une véritable réponse, insuffisante, mais qui a été une réponse au manifeste de Ferratabas, ça a été d'ouvrir la citoyenneté française sans renoncer au statut musulman à 70 à 80 000 Algériens, ce qui était significatif par rapport au projet Violette que vous avez évoqué, qui était avorté. Donc il y a en effet une volonté de faire échec à la politique de réforme du gouvernement français. Et puis il y a la volonté de purger cette région de Guelma, qui est vraiment le foyer du nationalisme algérien, de ces éléments nationalistes. Et les gens qui sont tués par les milices françaises, qui sont en effet formées par Atiari, ne sont pas tués au hasard. Autant à Sétif, la répression militaire tire dans le tas et tue au hasard de nombreux Algériens. Autant à Guelma, on va chercher les listes du PPA, des scouts musulmans, de la CGT, pour tuer les éléments nationalistes. Donc c'est bien une purge qui se produit.
Alors il ne reste 15 secondes, est-ce qu'on peut dire, comme on l'a laissé entendre dans le récit, que cet épisode-là constitue les prémices de ce qu'on a appelé après, malheureusement qu'on n'a pas appelé la guerre d'Algérie, on disait les événements, mais qui était la guerre d'Algérie. Et ce sont les prémices de ça?
Oui et non, oui, parce que s'il y a une rupture évidente, et le sentiment qu'il faut passer par le cap de la violence, et en même temps non, parce que le 1954, c'est le début de la guerre d'Algérie, malgré tout.
Merci infiniment, Jean-Pierre
Merci
Perboulou.
À vous de Merci m'avoir invité.
Au revoir. Des affaires sensibles aujourd'hui, le massacre de Sétif et de Guelma, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos.